Bienvenue dans le débat. Imaginez une seconde que vous deviez construire un gratte-ciel, pas avec de l'acier ou du béton armé, mais avec un matériau vivant, un truc fluide, imprévisible, qui change de forme pendant que vous le coulez.
Ouais, le cauchemar de n'importe quel ingénieur.
Exactement. Et pourtant, c'est exactement le défi d'aujourd'hui quand on confie la création de nos logiciels à l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, on décortique un cadre d'architecture logicielle super intéressant, la méthode Foyer, conçue par Gilles Maury, qu'on trouve détaillée sur GitHub et dans plusieurs notes techniques.
Et c'est un texte qui s'attaque à un paradoxe assez vertigineux, en fait. Comment on concilie la nature complètement probabiliste et incertaine de l'IA avec l'exigence binaire et stricte d'une entreprise qui ne peut pas tolérer la moindre erreur en production. C'est littéralement essayer de sceller du mercure dans du béton.
C'est une belle image, ouais. Le choc de deux mondes. Alors la question centrale aujourd'hui, c'est est-ce que cette méthode Foyer réussit vraiment à dompter ce chaos pour en faire une certitude mathématique? Ou, et c'est là qu'on va sûrement s'écharper, est-ce qu'elle ne crée pas juste un énorme piège de la confiance en déplaçant le problème vers une bureaucratie insoutenable?
Le mot « bureaucratie » est lâché.
Je suis convaincu que cette méthode offre une réponse structurelle implacable. Elle dresse un véritable mur déterministe qui s'appuie sur le principe fondamental de la responsabilité humaine absolue, le fameux « répondre d'eux ».
Et de mon côté, je suis persuadé du contraire. Alors oui, c'est rigoureux sur le papier, mais dans la réalité, ça impose une lourdeur opérationnelle étouffante. Ce qu'ils appellent le coup « wall clock ». Ça crée un faux sentiment de sécurité face à une machine qui génère inévitablement de l'obésité logicielle.
Alors, commençons par là. Ce postulat de l'IA comme une bête à dompter. Ce qui me frappe dans ce document, c'est que la méthode Foyer ne fait en fait absolument pas confiance à l'IA.
Non, pas du tout.
C'est sain. Elle part du principe qu'un moteur probabiliste ne peut jamais être laissé à lui-même. On ne peut pas poursuivre un algorithme en justice, vous voyez. La question c'est, pourrais-je en répondre et devant qui? Face à ça, la méthode enferme l'IA dans un processus où chaque ligne de code est objectivée et validée. C'est pour moi la seule voie vers un logiciel durable.
Alors, le principe de responsabilité, on est complètement d'accord là-dessus. Mais la méthode pour y arriver, c'est une illusion d'optique. Regardez la contradiction. On nous vend l'IA comme cet accélérateur magique, fulgurant, mais si on doit monter une usine de conception massive avant même de coder la première ligne...
C'est pas une usine, c'est une préparation nécessaire.
Mais attendez, après ça, il faut encore déployer une barrière infranchissable de supervision. Où est le gain de vitesse? On le perd. On masque le chaos probabiliste derrière des montagnes de métriques et à la fin, on isole le développeur tout seul avec son agent. C'est ce qu'ils appellent le risque du « buzz factor 1 ». Si ce développeur part, la boîte coule.
Je comprends cette peur de la lourdeur, vraiment. Mais prenons un instant pour analyser cette mécanique. La phase que le document appelle l'usine BAMAD.
Ouais, la fameuse préparation.
Voilà. Avant même de générer le moindre token, la méthode s'attaque à l'ambiguïté. Elle exige que 5 personnes, le produit, l'architecture, le dev, la sécu, s'alignent pour réduire l'espace de recherche de l'IA.
5 humains qui doivent se mettre d'accord avant de taper une ligne de code, c'est l'antithèse absolue de l'agilité.
Non, c'est l'antithèse du bricolage. L'objectif, c'est de produire un backlog avec le statut très strict de agent IA ready. On n'est pas sur un vieux ticket de Jira griffonné sur un comptable. On utilise du Domain Driven Design, le DDD.
Qui est un concept très lourd.
Mais hyper efficace ici. Ce n'est pas juste de l'esthétique architecturale, c'est une laisse sémantique. En forçant l'IA à utiliser le vocabulaire validé par le métier, genre utiliser panier client et ne pas la laisser inventer carte manager dans son coin, on réduit son espace d'hallucination de façon mathématique. On y ajoute des tags obligatoires, ATAPI pour le nominal, AdSecurity pour les failles. Le verdict final doit être un pass parfait. Sans ça, l'IA reste éteinte.
Ah mais écoutez-vous, Vlar, exiger une élimination totale de l'ambiguïté avant de coder, c'est complètement utopique en ingénierie logicielle. L'IA générative, son carburant, c'est l'exploration. Sa force, c'est d'itérer vite sur un problème complexe.
Pas en production critique.
Mais si vous forcez 5 humains à formater la requête avec un tel niveau de perfection pour décrocher ce fameux pass, le temps intellectuel que vous passez en amont, il annule complètement l'avantage de la génération. Le développeur devient un simple dactylographe de contraintes. Il s'épuise à brider le moteur avant même de tourner la clé.
Mais brider le moteur, c'est exactement le but. L'IA n'a pas à faire d'exploration erratique sur un système critique. Elle fournit une capacité de fabrication sous contrainte. Si on la laisse improviser, on perd toute traçabilité. Mais bon, admettons qu'un dev dérape et pousse l'IA à improviser quand même. Comment on empêche le déraillement? C'est là qu'on trouve la vraie prouesse de ce cadre, les trois anneaux de l'enforcement.
Ah, le fameux mur déterministe?
Précisément. Le document postule que les bons prompts, ça ne suffit jamais pour la sécurité. Il faut un blocage physique. Le premier anneau bride les permissions de l'agent. Le deuxième restreint les plugins. Et le troisième, la véritable forteresse, c'est le substrat.
Ouais, les guides hooks et les pipelines CI.
C'est ça. Protection des branches, environnement sandbox. Un guide hook, concrètement, c'est un vigile à l'entrée de votre dépôt. L'IA génère, le développeur pousse le code, et là, à la milliseconde où ça touche le serveur, des scripts l'analysent. Est-ce que la complexité cyclomatique explose? Oui. Code rejeté. Est-ce qu'il y a une faille de sécu? Oui. Rejeté. C'est pas une suggestion, c'est un barrage physique. Et c'est de ça que l'humain répond. Le code toxique ne passera pas.
Alors, je vous l'accorde, c'est un mécanisme de défense assez fascinant. Mais ce tamis, il est totalement aveugle à un truc crucial, la lisibilité cognitive. Et c'est là qu'on tombe dans le danger suprême mentionné dans les notes, le piège de la confiance.
Pourquoi un piège?
Parce que si vous construisez un coffre-fort technique aussi parfait, blindé de Git hooks qui vérifie la syntaxe et les tests, vous générez un faux sentiment de sécurité chez le développeur. Il se dit « Ok, bah si la CI valide, c'est que c'est propre. » Sauf que l'IA peut générer du code qui compile très bien, qui passe tous les tests, mais qui, de l'intérieur, est un véritable monstre.
Un monstre, c'est-à-dire? Vous voulez dire quoi par là?
Ce qu'ils appellent très justement l'obésité logicielle. L'IA manque cruellement d'élégance, vous savez? Là où un ingénieur senior va vous pondre une fonction récursive magnifique de 10 lignes, l'IA va paniquer sur un détail et recracher une structure labyrinthique de 400 lignes avec des boucles partout.
Mais si ça fonctionne et que ça passe les tests?
C'est bien ça le problème tech. Techniquement, ça passe votre mur déterministe, mais le logiciel devient un bloc de plomb, intransmissible. Le dev valide sans lire, aveuglé par le piège de la confiance, et la dette technique explose.
D'ailleurs, c'est la meilleure preuve, si le substrat était si infaillible, pourquoi la méthode obligerait-elle à faire de l'intervision?
Ah, vous parlez du pair-programming imposé?
Bah oui. Si la machine bloque tout le mauvais code, pourquoi forcer deux humains à s'asseoir ensemble pour relire chaque ligne générée par l'IA? C'est bien un aveu d'échec de l'architecture automatisée. Lire du code spaghetti pondu par un algorithme, c'est épuisant psychologiquement. Ce mur déterministe, il ne suffit pas à empêcher l'effondrement. Alors, je vois très bien Yang, mais en fait, je retournerai complètement l'argument. L'intervision, c'est pas un aveu d'échec, c'est la composante humaine indispensable du déterminisme. Le cadre foyer n'ignore pas le biais d'automatisation, il l'anticipe. Le pipeline CI valide la machine et l'intervision valide l'humain. Mais bon, cet effort cognitif dont vous parlez, cette friction pour dompter l'obésité logicielle, ça nous mène tout droit au cœur économique du problème.
L'économie de l'attention, oui.
L'équation économique de la méthode foyer est assez brillante. Coût de fabrication assisté égale coût machine plus latence humaine.
La fameuse opposition entre les tokens et le wall clock.
Voilà. C'est un changement de paradigme. Les tokens de l'IA, ça coûte que dalle. Le document donne des chiffres ridicules, genre 0,85 euros par million de tokens. C'est microscopique. Mais la méthode révèle que la vraie métrique qui coule les projets, c'est le wall clock. Le temps humain pour relire, poncer et assembler ce code. Et l'idée de génie, c'est d'assumer que ce temps n'est pas une perte. C'est la latence d'objectivation nécessaire pour éviter que tout s'effondre. Et pour ça, le cadre utilise deux capteurs humains, l'ingénieur CSI et l'ingénieur support.
Ah, ces capteurs humains. Analysons-les. Parce que c'est là que la théorie se fracasse sur le réel. L'ingénieur CSI, il fait du dogfooding en interne pour ajuster la viabilité. Très bien. Mais regardez l'ingénieur support, qui représente les utilisateurs. La méthode dit qu'il doit utiliser le filtre RICE.
Oui, Reach, Impact, Confidence, Effort. Une matrice très standard en produit.
Standard? Ouais, mais pourquoi on l'utilise avec une telle agressivité ici? Le document l'explique. La génération effrénée par l'IA pousse à la dérive fonctionnelle, le feature creep. Un LLM est conçu pour être beaucoup trop serviable. Vous lui demandez un bouton de paiement, il vous génère spontanément un dashboard financier complet. C'est sa nature.
Et c'est pour ça qu'on a le filtre.
Mais du coup, l'ingénieur support est obligé d'évaluer ça brutalement. Et la variable effort de la matrice RIC explose à cause de l'obésité logicielle qu'on a mentionnée. La maintenance de cette fonctionnalité non demandée coûte tellement cher que l'ingénieur support finit par jouer le vigile de boîte de nuit et rejette 90% de ce que la machine a pondu.
Mais il est lag. Il maximise la valeur métier et réduit la surface d'attaque. C'est de l'ingénierie extrêmement saine. Enfin...
C'est surtout une contradiction flagrante, yo.
On investit des millions dans une technologie d'accélération censée générer des myriades de lignes, et la cadence réelle du projet est dictée par un pauvre humain avec un fichier Excel qui bloque quasiment tout. L'accélération est une illusion. La vitesse est freinée par cette lourdeur administrative. La fameuse métaboucle de gouvernance avec ses ADR et ses ADM.
Les Architecture Decision Records. C'est ce qui grave dans le marbre le pourquoi on a pris telle ou telle décision technique.
C'est ça. L'IA pond son code en 2 minutes et derrière, l'architecte passe 3 jours à rédiger un ADR pour justifier la validation. On a littéralement mis un moteur de Formule 1 dans un tracteur avec un inspecteur devant qui nous oblige à rouler à 5 km/h. Le wall clock engloutit tout.
Je saisis la frustration opérationnelle, vraiment. Mais cette Formule 1, sans l'inspecteur et sans les ADR, elle fonce droit dans un mur d'incertitude technique. La vélocité brute d'une IA, laissée à elle-même, ça ne produit pas un actif pour l'entreprise. Ça produit du code toxique et jetable. Ce temps de documentation, cette métaboucle que vous traitez de bureaucratie, c'est l'acte même de création de valeur d'une entreprise aujourd'hui.
Sérieusement, produire de la documentation au lieu de produire des fonctionnalités, c'est ça la création de valeur pour vous?
À l'ère de l'IA, absolument. Transformer un flux probabiliste hyper chaotique en un actif sécurisé, traçable, dont une personne physique assume l'entière responsabilité, c'est le vrai boulot de l'ingénieur. Sans les ADR et la rigueur du wall clock, la gouvernance de l'entreprise explose en quelques mois.
Alors, je ne remets pas en question le besoin de validation. Mais regardez le constat implacable que dresse la méthode elle-même. En fait, l'IA ne réduit absolument pas la charge de travail globale d'une équipe. Elle la déplace. Le temps qu'on passait à tâter sur un clavier, on le passe maintenant à décrypter du code complexe généré par la machine, à configurer des pipelines CI et à s'épuiser en pair programming pour ne rien rater.
Et ce déplacement est inévitable pour contrer le risque majeur identifié par Gilles Maury.
Le risque de l'IA solitaire. Le document est très anxieux là-dessus et à juste titre. La connaissance du système finit enfermée dans une relation occulte entre un seul développeur et la fenêtre de contexte de son IA.
Le buzz factor 1.
Voilà. L'agent comprend le code parce qu'ils viennent d'en parler. Mais si la session se ferme ou si le dev quitte l'entreprise, c'est fini.
Et la compréhension s'évapore parce que la machine n'a pas d'historique sémantique de ses choix. C'est un désastre. Mais c'est précisément pour ça que la méthode empile ses processus parallèles. Intervision, ADR, capteur RISE. Elle construit une carapace humaine autour du code parce que la machine ne sait pas justifier philosophiquement ce qu'elle fait.
C'est vrai.
Du coup, si on synthétise un peu nos positions, je maintiens que cette méthode foyer est aujourd'hui la réponse structurelle la plus mature qu'on ait. Elle regarde les LLM en face et elle impose ses règles. Avec l'usine BMAD en amont, les 3 anneaux du substrat au milieu et ce principe fondamental du répondre d'eux, elle transforme une force brute en un actif déterministe. Le wall clock, c'est pas de la paperasse, c'est le prix de la résilience.
Et de mon point de vue, tout ce travail agit surtout comme un énorme miroir tendu à notre propre hubris. Oui, c'est magistralement structuré, mais la complexité des remparts prouve que l'IA ne crée pas du tout la fluidité magique qu'on nous vend. Elle déplace juste la friction. Pour éviter le bus facteur 1 et l'obésité logicielle, on est condamné à ériger cette ingénierie de la supervision extrêmement coûteuse.
Malgré nos désaccords sur l'opérationnel, il me semble qu'on arrive à un point de convergence assez solide.
C'est clair. Le texte est sans équivoque, et nous aussi. L'idée d'une IA générant du code en totale autonomie est une chimère absolue. La génération rapide ne supprimera jamais le coût de la validation humaine. Un dev seul dans son coin avec une IA, c'est pas un gain de productivité, c'est une faille de sécurité géante en devenir.
Et c'est un constat qui force le respect. Les travaux autour de cette méthode foyer posent vraiment un jalon crucial dans l'ingénierie. Ils nous forcent à dépasser la fascination des premières lignes générées, pour entrer dans l'âge adulte de l'ingénierie assistée. Ça invite vraiment chaque responsable technique à examiner comment son organisation gère cette ligne de crête entre la vitesse de la machine et la responsabilité humaine.
C'est clair. Il y a de quoi alimenter pas mal de comités d'architecture pour les mois à venir. Le défi de l'implémentation est juste colossal.
Absolument. Pour clore, repensons à ce chantier de gratte-ciel du début. S'il y a ce fleuve sauvage et puissant, la méthode foyer nous donne les plans d'un barrage titanesque pour capter son énergie. La question pour les entreprises, c'est point. Ont-elles les ressources financières, la discipline et la vigilance humaine pour couler tout ce béton sans se faire broyer par leurs propres machines? C'est une réflexion qu'on vous laisse mûrir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel échange sur Le Débat.